Entreprise. Une entreprise est un agent économique qui produit et vend des biens ou des services. Pour se développer et vivre, elle a besoin de faire du profit. Cette définition et cette constatation sont vraies pour toute entreprise, de quelque taille qu'elle soit et à quelque secteur qu'elle appartienne. Selon le nombre des salariés, la classification internationalement acceptée distingue les très petites entreprises avec moins de 10 salariés, les petites entreprises de 10 à 50 salariés, les moyennes entreprises de 50 à 500 salariés, les grandes entreprises plus de 500 salariés. On appelle les petites et moyennes entreprises ensemble les PME. Les entreprises géantes et les multinationales sont présentes dans plusieurs pays, voire chapitre 2. Un autre critère de classification est le secteur d'activité auquel une entreprise appartient. L'on a ainsi dans le secteur primaire des exploitations agricoles qui cultivent des légumes, des céréales ou pratiquent l'élevage. Le secteur secondaire comprend essentiellement des entreprises industrielles, par exemple entreprises automobiles, entreprises agroalimentaires. Le secteur tertiaire, lui, est caractérisé par une grande variété d'entreprises de services. Entreprises artisanales, compagnies d'assurance, compagnies de voyage, agences de voyage, agences immobilières, agences de publicité, entreprises commerciales, épiceries, supermarchés, librairies, papeteries, etc. Suivant le propriétaire, il existe des entreprises publiques, entreprises nationales ou entreprises d'État, des entreprises privées appartenant soit à une seule personne, à un entrepreneur individuel, il s'agit alors d'une entreprise individuelle, soit à plusieurs personnes. Dans ce dernier cas, cela s'appelle une société. Sur le plan juridique, une société est une personne morale ou personne juridique. Lorsqu'une entreprise est détenue en partie par des actionnaires associés et en partie par l'État, il s'agit d'une entreprise d'économie mixte. Selon le pays où se trouve le siège social, on parle de société de droit français, société de droit russe, etc. Une grande entreprise et une multinationale peuvent avoir des filiales et des sites dans plusieurs pays. La France présente une assez grande variété quant à la forme juridique des entreprises. Les plus connues sont la SA, société anonyme, la SARL, société à responsabilité limitée, l'EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, la SARL de famille, société à responsabilité limitée de famille, la SAS, société par action simplifiée, la SASU, société par action simplifiée unipersonnelle, la SEP, société en participation, la SNC, société en nom collectif, la SCS, société en commandite simple, et la SCS par action, société en commandite par action. La SARL et la SA sont les deux formes de sociétés les plus répandues en France et en Hongrie aussi. Dans une SARL, le capital social est représenté par des parts sociales détenues par les associés dont le nombre est limité, alors que dans la SA, il est représenté par des actions cessibles, souvent cotées en bourse. Une forme spéciale de SA qui existe en Hongrie est la société anonyme à capital fermée. La rentabilité, donc la capacité de l'entreprise à réaliser des bénéfices, est une condition essentielle de sa compétitivité et de sa survie. L'efficacité et le bon fonctionnement dépendent de nombreux facteurs dont les plus importants sont le management, la stratégie, la gestion, la structure, la culture d'entreprise, la gestion et l'innovation. Au fil du temps, la plupart des moyennes entreprises et les grandes entreprises ont adopté une structure essentiellement hiérarchique, quoique de nouveaux modèles organisationnels se répandent également. Dans le modèle traditionnel, la distance hiérarchique entre supérieurs, les directeurs, et les subordonnés, les inférieurs, peut être plus ou moins grande. La structure d'une grande entreprise ou d'une moyenne entreprise est généralement organisée en direction opérationnelle et fonctionnelle. Les premières sont celles qui produisent les biens et les services vendus par l'entreprise. Les directions opérationnelles sont le cœur de l'entreprise. Les autres directions fonctionnelles servent de support aux autres directions opérationnelles. On distingue généralement la direction de la stratégie, la direction financière qui contrôle la gestion de l'entreprise, établit ses comptes, gère sa trésorerie, c'est-à-dire les entrées et les sorties de cash, la direction des ressources humaines. À la tête d'une SA, on trouve le directeur général ou un PDG. Les autres types de sociétés, comme la SARL, sont dirigées par un gérant. Les PME constituent environ les 98% des entreprises dans les pays de l'UE. La création d'entreprises est donc essentielle pour le bon fonctionnement de l'économie, d'autant plus qu'un pourcentage important des PME disparaît au cours des trois premières années qui suivent sa fondation. Si une entreprise est en difficulté, elle peut être rachetée par un repreneur ou, si en raison de ses dettes ou de ses pertes, elle se trouve en cessation de paiement, elle doit déposer son bilan, c'est-à-dire déclarer la faillite. Une entreprise en faillite est placée en redressement judiciaire qui a pour but de la remettre sur pied par un changement de profil ou par une restructuration. Si le redressement judiciaire échoue, la banque, son créancier numéro 1, peut demander la liquidation. Aussi, le créateur doit-il bien vérifier si son idée de départ promet d'être rentable et doit procéder avec le plus grand soin à l'élaboration de son business plan et le choix des sources de financement. Il peut avoir recours soit à des banques, soit à des business angels et à des investisseurs privés. Parmi les entreprises, il y a les startups, les jeunes pousses, qui sont caractérisées par plusieurs éléments. Tout d'abord, il suffit de traduire l'appellation en français pour en comprendre l'objectif principal. Démarrer et grandir vite. Toutes les autres caractéristiques en découlent. Ces sociétés opèrent plutôt dans des secteurs technologiques, Internet, biotechnologie, où les potentiels de croissance sont gigantesques. Pour se développer et faire face aux énormes besoins de financement, recherche et développement, BFR, autres investissements, elles font le plus souvent appel à des capitaux privés. Les cash flows de l'activité ne suffisent pas pour faire face aux besoins de trésorerie et au capital risque et de plus en plus au financement participatif ou crowdfunding en anglais. Voir chapitre 8. La start-up se développe généralement suivant un cycle de vie comprenant 5 grandes étapes, à savoir premièrement, l'amorçage. L'entrepreneur est au stade de l'idée, il cherche à matérialiser son innovation et débute la construction de son projet. Deuxièmement, le démarrage. C'est l'étape des premiers lancements commerciaux. L'entreprise est désormais visible sur ses marchés. Troisièmement, le décollage. La société est désormais bien lancée. Les produits et services sont finalisés. La structure est opérationnelle. Quatrièmement, la consolidation. La rentabilité de l'affaire est avérée et la start-up compte parmi les leaders de son secteur. Cinquièmement, l'introduction en bourse. Cette dernière étape est le but recherché par la majorité de ces nouveaux entrepreneurs et surtout des investisseurs participant au projet. Les moyens sont décuplés. L'aventure prend un nouveau tournant et pour devenir peut-être une entreprise traditionnelle. Un autre régime relativement récent et de plus en plus populaire est l'auto-entreprise. L'immatriculation de l'activité en auto-entrepreneur est rapide, inscription via Internet. Il n'y a pas de comptabilité à tenir, pas de TVA à facturer, et les charges sociales et l'impôt sur le revenu sont calculés très simplement en pourcentage du chiffre d'affaires. Une formule tentante lorsqu'on ne maîtrise pas très bien les rouages administratifs et financiers de l'entreprise. Cependant, ces avantages peuvent dans certains cas compromettre la rentabilité de l'activité.